voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Martin Kénéen rencontre Bernard Kouchner. Ce soir, le combat.
Bernard Kouchner, l'un de vos camarades du magazine Actuel, qui est devenu boulanger depuis, dites-vous que vous êtes un homme d'action et vous, vous employez une sorte d'oxymore. Vous dites « toujours guerrier de la paix, jamais soldat ».
Pas mal. Je maintiens. Ouais. C'est un peu péjant pour les soldats qui parfois sont au service de la paix, mais enfin c'était un grossièrement... Oui, c'est bien. C'est ce que j'ai fait en gros.
Mais c'est quoi, c'est « si vis pacem, parabellum »
Non, pas du tout. « Si vis pacem, parabellum », ça veut dire qu'il faut des armes et qu'il faut éventuellement attaquer. Mais c'est ce que « si vis pacem, parabellum », c'est plutôt tourné vers le droit d'ingérence ou vers la façon de prévenir les massacres. Bon, enfin, ça n'a pas marché. Il y en a eu un ou deux exemples de bons. Non, ça veut dire « guerrier de la paix ». J'ai d'ailleurs fait un livre qui s'appelle « Les guerriers de la paix ». Donc... voilà, guerrier de la paix, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Ça veut dire qu'il faut la paix, il faut pas que les gens se massacrent, et parfois, il faut forcer la paix. Ça veut dire que il faut, par avance, par prévention, s'il faut employer des moyens militaires pour imposer la paix, il ne faut pas hésiter. C'est rare que ça marche, c'est même fréquent que ça échoue, mais c'est comme ça. Si vous, nous avions, avec Michel Rocard en particulier, créé, quand j'étais député européen, gauche-droite réunie déjà et personne ne me le reprochait, on avait créé un mouvement pour la prévention internationale des conflits. Prévention des conflits. On a essayé au Rwanda, j'étais le seul Français au Rwanda pendant le génocide, hein. Bon, nous avons échoué, le génocide a eu lieu, mais on avait créé, si ce qui est l'essence même du droit d'ingérence, c'est pas d'aller frapper comme en Libye, et puis de s'en aller tout de suite. Il faut rester un peu, il faut aménager la paix, et il faut surtout arriver avant le massacre. Malheureusement, toutes les interventions, presque toutes, sauf la Macédoine, les interventions de l'ONU se sont faites après la bataille, alertées par la bataille, bousculé, impressionné par les images de la bataille qu'on voyait à la télévision, alors, au bout de longs mois après, parfois des années, l'intervention de l'ONU se fait. Mais c'est trop tard, les gens sont morts. Alors peut-être qu'on évite quelques morts supplémentaires, mais c'est avant qu'il faut faire. Et avant, c'est très difficile. Et nous avions créé ça dans le Parlement européen, gauche-droite ensemble, pour essayer, et Michel Rocard avait mis sur pied une espèce de crible intéressant, aussi bien le prix des tomates sur le marché que les mouvements révolutionnaires, que les mouvements religieux, que l'environnement, etc., etc. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens et essayer d'intervenir avant. Mais c'est très difficile, parce que pour intervenir, il faut passer par l'ONU. Et à l'ONU, maintenant, après la Libye, justement, vous n'aurez plus d'unanimité pour le moment. J'espère que ça reviendra. Mais les cinq membres permanents, il y aura toujours, enfin pour le moment c'est comme ça, d'un côté la Chine et la Russie, et de l'autre la France, l'Angleterre et les États-Unis qui s'opposeront.
Mais si on revient avant que vous ne deveniez ce député européen, que vous ne soyez même médecin engagé au Biafra en 1968, Bernard Kouchner, avant, dès l'âge de 14 ans,
j'ai été, et pas à 14 ans, même plus tôt, membre de l'UJRF, c'est-à-dire l'Union des Jeunesses Républicaines de France. Bien sûr, c'était les communistes qui manipulaient, mais je n'étais pas, j'ai jamais été inscrit au Parti communiste. Jamais, jamais, jamais. Mais à l'UJRF, oui, je vendais sur le marché de Montreuil-sous-Bois, où j'habitais, car monsieur, je suis un enfant de la banlieue, contrairement aux apparences, peut-être. Je vendais « Demandez, lisez l'Avant-Garde, organe de combat des jeunes travailleurs ». L'Avant-Garde, journal de l'UJRF.
Et vous êtes allé aux côtés des jeunes et des moins jeunes travailleurs.
Mais bien sûr, oui. Bon, mais ça, c'est
sur la grève, la fameuse grève des dockers du Havre. C'était
absolument,
un de vos premiers combats.
Mon premier combat, combat des dockers. Moi, j'étais en autocar avec le GRF. Non, mais bon, d'accord. Bah, j'étais un militant de gauche, quoi. Il n'y a pas à rougir de ça. Hein. Pas du tout.
Militant, on vous retrouve en mai 68 en tête des cortèges. Il y a dans le film de William Klein qui s'appelle Grand Soir et Petit Matin, qui est consacré aux événements de mai 68, une image, une séquence, un plan où on vous voit en tête du cortège. Je ne sais pas si vous avez vu cette image dans ce film de William Klein. C'était quoi ce moment 68 et peut-être cette manif-là, si vous en avez le souvenir?
Il a fait du cinéma. Moi, j'étais dans ma 68. Oui, j'ai participé aux manifestations. Je me faisais d'ailleurs pas d'illusions sur le caractère révolutionnaire de mai 68, mais ça a changé les mœurs. Ça a donné beaucoup d'élan à cette jeunesse. Et il y a une génération de mai 68. C'est pas moi. Moi, en 64, en 65, nous nous sommes fait virer de l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Mais j'appartenais pas au Parti communiste, donc ça m'a pas fait une peine folle. Mais mes amis et moi, et ça a endeuillé ce mouvement, parce que certains qui croyaient beaucoup au communisme, plus que moi, en sont morts. Il y a eu un désespoir de... Ce mouvement, l'Union des étudiants communistes, était un mouvement social, enfin social au sens politique, il était très à gauche, on pouvait même être qualifié de gauchiste. Mais moi, je n'étais ni maoïste, ni trotskiste. Je pensais qu'il fallait changer la société pour le bien de tous. Et ça a été le contraire, quoi. Nous avons dû lutter contre le Parti communiste, qui finalement a gagné la partie. Et donc, nous avons été écartés de la direction. Bon, c'est comme ça, on avait perdu. Mais c'est quand même 30 ans après ce que vous me dites, hein. Il y avait eu la guerre d'Algérie. Ce qui a compté dans ma génération, c'est la guerre d'Algérie. D'Algérie. Alors, on ne sait pas si c'est 600 000 ou 800 000 Algériens morts, mais c'est beaucoup, beaucoup. Et je respecte encore complètement les Français qui étaient installés là-bas depuis des générations et à qui on a raconté des histoires en disant que l'Algérie c'était la France et qui ont dû partir en laissant tout derrière eux et qui en ont conçu une amertume parfois mortelle. Oui, eux aussi, je pense à eux. C'est ça la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'était le combat des jeunes et le combat des étudiants en particulier. Et puis en plus, il y a eu l'OAS. Donc il fallait s'opposer à ça.
Mais pourquoi est-ce que cette guerre d'Algérie, elle vous importe, elle vous touche tant aujourd'hui, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler dans l'un de nos précédents entretiens,
exact.
Et vous en avez croisé des conflits. Vous êtes allé sur des théâtres de guerre.
C'était notre, celui-là. Vous comprenez, moi, j'étais
du jeunesse. Mais en quoi est-ce qu'il est décisif pour vous ?
Décisif parce qu'on employait l'armée à la torture. Décisif parce que nous faisions des massacres inutiles. Décisif parce qu'on tuait très largement, hein. 600 000 ou 800 000, j'ai pas compté les... Bon, c'est gros. Et donc c'était la France des droits de l'homme, la France de 89, comment pouvait-on accepter ça? Quand on a appris que la bataille d'Alger, c'était une bataille de la torture, pour faire parler les gens, la jeunesse française, enfin celle à laquelle j'appartenais, n'a pas accepté ça, c'était inacceptable. C'était le dernier soubresaut du colonialisme. Il se trouve que c'était pas chez nous, c'était simple à voir. Et encore une fois, Mendès France avait dit ça. Sur le Maroc et sur la Tunisie et sur le Vietnam, Mendès France avait pu intervenir, peser, pas sur l'Algérie, il n'a pas eu le temps. Il y avait des batailles quotidiennes qui opposaient la gauche et la droite.
Mais le fait qu'il y ait eu un tel silence, on parlait des événements d'Algérie pour ne pas parler de la guerre,
oui.
Le fait qu'on ait su plus tard, comme vous le disiez, l'usage systématique, organisé de la torture, par exemple, pendant la bataille d'Alger. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a amené, plus tard, Bernard Kouchner, à élaborer ce que vous appelez la loi du tapage médiatique? Le fait que vous avez décidé, pour mener vos actions de médecin humanitaire, de militant humaniste, le tapage médiatique?
Oui, probablement. Mais la loi du tapage, ça succède à un autre postulat que j'ai énoncé, la morale de l'extrême urgence. Si vous avez des gens qui meurent, ça c'est le côté médecin, c'est pour ça que l'aventure fut médicale et politique en même temps. Si on saigne, faut mettre un garrot, ou alors le malade meurt, le patient, le blessé, il meurt. Donc la morale de l'extrême urgence, c'est la phrase qu'avait remarquée François Mitterrand, et fait remarquer à cette séquence formidable, où droite et gauche réunies, et on ne l'a pas reproché à ce moment-là, c'est-à-dire ouvert par Jacques Chirac, et clos par François Mitterrand, cette réunion de 87 sur le devoir d'ingérence. Il faut pas laisser les gens mourir. A-t-on le droit de les laisser mourir? Non seulement nous avons essayé, à titre préventif, d'intervenir, mais maintenant, c'est plus la mode. On a laissé mourir les Syriens et pratiquement tout le Moyen-Orient, sans réagir. On les a laissés mourir dans les eaux de la Méditerranée, là où nos enfants vont jouer au sable. On a fait quelques petits trucs, et encore il a fallu insister. Il y a eu deux bateaux qui venaient du Toulon. Toulon, c'est la Méditerranée, c'était pas loin. Nous avons été en mer de Chine, les chercher. Donc il y a une dégradation de l'indignation. Il y a une perte de cette sensibilité à l'extrême urgence. Mais bien sûr, c'était des musulmans. Malheureusement, on ne le disait pas, mais c'est de ça qu'on avait peur. Or, les musulmans qu'on a accueillis, pour ceux qui ne sont pas morts en mer, aussi bien en Allemagne, Madame Merkel, bravo, 1 million, et nous, 5 000, 6 000, ils n'ont pas participé aux attentats. Les attentats qui ont été faits, ils ont en Belgique, en Angleterre, en France, en Espagne, c'était des locaux avec des citoyennetés européennes, dans l'immense majorité. Voilà, c'est ça qui me fait de la peine.
Et comment vous expliquez, Bernard Kouchner, que à partir de cette fameuse année 1987, il y a une telle fortune du devoir d'ingérence, non seulement en France, à partir de la France, mais donc à l'échelle de la planète, avec l'ONU qui s'est fait la caisse de résonance de cette idée, avec la notion de responsabilité de protéger. C'est comme ça que ça a été en particulier repris, ce devoir d'ingérence. On a pu dire que le XXe siècle, à partir de ces années 80, a été le siècle du devoir d'ingérence, avec plus de 250 résolutions des Nations Unies dans cette fin du XXe siècle. Comment expliquer qu'au XXIe siècle, vous ayez le sentiment que on abandonne, on oublie ce droit et ce devoir?
Mon cher, je vous pose la question. Moi, je ne l'ai pas réglé complètement. J'essaie d'écrire là-dessus. J'en suis indigné, je suis tellement indigné que ça devient banal, mais oui, ce pays, la France, qui est réputé pour être le pays des droits de l'homme, en tout cas l'image qu'on colle à la France, n'est plus à la hauteur. Alors il y a à ça plusieurs raisons. La première, c'est que nous ne sommes plus seuls au monde. Nous n'avons pas saisi assez la bonne raison européenne qui nous aurait fait plus fort, car on est plus fort à 27 que tout seul. La France seule, grand pays pourtant, potentiellement, grande histoire en tout cas, n'a pas les moyens d'intervenir partout. Le colonialisme nous a desservis dans un certain nombre de pays, mais ça, c'est terminé quand même. L'Afrique ne nous en veut pas. Mais la peur est grande en France de se voir dépassée par les nouveaux arrivants représentés par les migrants, alors que c'est complètement faux, faudrait les accueillir. Je vous signale qu'au passage, plein de gens en France, surtout les associations catholiques, mais pas seulement, surtout les fondations, les municipalités étaient prêtes à accueillir ces réfugiés que le gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls ne leur ont pas permis d'accueillir. Il y a eu toute une propagande, enfin, très dommageable, contre le Front National pour dire, mais non, ils nous envahissent pas, enfin, ils ont, tout le monde a peur d'être envahi. Qu'est-ce que ça veut dire? On a pris 150 000 qu'on a été chercher en mer de Chine, des Vietnamiens, et ça a fait aucun pli. Aucun scandale, aucune difficulté. Je ne dis pas qu'il fallait tous les accueillir, mais on aurait vraiment pu. Ça, c'était la France. Donc on voit bien que nous ne sommes plus aussi inventifs, enfin qu'il y en a d'autres qui inventent. Nous ne sommes plus les seuls. Il y a eu le chômage, bien entendu. Mais même si ça n'était pas les mêmes emplois et que maintenant il y aura beaucoup de dégâts dans les emplois anciens. Il faudra inventer une autre formation, une autre activité. Il y a eu tout ça d'un seul coup. Une espèce de retour de contre la morale, une espèce de peur, de racisme. Racisme. Et puis il y a eu aussi des conséquences politiques désastreuses de décisions qui étaient la conférence de Dublin, c'est-à-dire que d'abord sont chargés les pays d'accueil sont chargés d'abord de la répartition. Alors ça veut dire que nous nous méfions de l'Italie, grand Dieu, mettre des CRS entre l'Italie et la France pour empêcher les pauvres types de pas mourir. Mais franchement, bon, ça me retourne encore. Alors, oui, l'Italie, l'Espagne, à un moment donné, la Grèce, étaient chargés, ils étaient débordés. Il fallait un sursaut européen. Nous n'avons pas été capables de le faire parce qu'il n'y avait pas assez d'Europe. Parce qu'il fallait l'unanimité sur ce sujet. Et évidemment, il y a des pays qui viennent des pays de l'Est, en particulier la Tchéco plus Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, etc., qui refusent les immigrants. Jolie Europe. S'il n'y a pas de fraternité en Europe, il n'y aura pas d'Europe. Et là, je crois que ça va être plus dur qu'avant. Hein. Donc tous ces facteurs, c'était l'épanouissement dans les années que vous avez évoquées. Il n'y avait pas de chômage, nous avons eu le vent en poupe. Tout ça explique que nous étions plus généreux. Mais je suis sûr que nous aurions pu recréer la générosité de la France. On ne l'a pas fait. Je le regrette beaucoup.
On parle du combat et de vos combats, Bernard Kouchner, ensemble dans ce volet aujourd'hui de nos entretiens. Et là, vous semblez évoquer une sorte de défaite, en tout cas à l'œuvre,
oui.
Dans une bataille ou une guerre qui n'est pas terminée, un combat qui n'est pas terminé. J'aimerais, de façon sans doute un peu terre-à-terre, revenir à d'autres défaites. Quand vous étiez candidat aux législatives en 88, en 94, en 96...
Écoutez, on m'a fait me présenter, arrêtez, je ne glosais pas là-dessus. C'était les deux endroits où les communistes étaient au pouvoir depuis la Résistance. Mais moi, qui étais naïf, j'avais pas vu. Mitterrand m'avait dit « Ah oui, vous pensez quand même... » Oui, bon voilà, c'est un piège. J'étais ingagnable. Donc j'ai pas gagné, et même j'ai perdu.
Vous avez caressé à un moment le doux rêve, peut-être un peu dur aussi, à vrai dire, de devenir président de la République. En tout cas, d'aucuns l'ont caressé pour vous, et
oui,
vous voyez bien leur candidat.
Remarquez, je vais vous dire un truc, j'aurais pas fait pire que certains.
Il aurait fallu pour ça mener la bataille au sein du Parti Socialiste.
Oui.
Et ça, vous n'étiez pas prêt à
ces combats-là ? Non,
c'est-à-dire
que j'étais pas prêt. Il n'y avait personne à ce moment-là. J'ai fait un mouvement qui s'appelait Réunir, et comme son nom l'indique, tentait de réunir les Français qui étaient en faveur d'un certain nombre de réformes que j'avais énoncé dans un livre qui s'appelait « Deux ou trois choses que je sais de nous ». Et à ce moment-là, au départ, on avait commencé une tournée qui était d'ailleurs très florissante, ça marchait bien. À ce moment-là, Ségolène Royal s'est présentée au nom du Parti Socialiste. Oui, j'ai eu tort. Enfin, Ségolène faisait une bonne campagne d'ailleurs, mais j'ai eu tort de me dire « je vais pas commencer alors que je suis pour la Réunion à lutter contre le parti d'où... auquel j'appartiens ». Enfin, j'ai eu tort. Il faut pas appartenir à un parti. Il faut, à la rigueur, faire référence aux idées que ce parti lance. Mais c'est tout, c'est tout.
On vous reprochait notamment, Bernard Kouchner, de pas seulement ne pas appartenir depuis longtemps au Parti Socialiste, mais de ne pas avoir de circo, de circonscription, de ne pas être assez enraciné.
Oui, c'est vrai. Vous avez vu Macron ?
Et vous aviez répondu « Ma circonscription, c'est le monde ».
D'abord, c'est une jolie réponse. Ensuite, c'était vrai. Ou plutôt, c'était vrai, mais c'est une jolie réponse. Oui, ben voilà, c'est exactement ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Et bravo ! C'était trop tôt, c'est tout. Quelle est l'idée originale ? que les sociaux-démocrates. Je vous rappelle qu'à cette époque, être social-démocrate, c'était impossible à dire. Même ça, nous étions tellement sectaires social-démocrates, ça voulait dire très à droite, ça voulait dire c'est pas beau, ça voulait plus dire socialiste. Enfin, c'est un pays impossible, quoi.
Mais pourquoi vous continuez à vous persister à vous dire de gauche, Bernard Kouchner ?
Parce que je suis de gauche. C'est assez simple. Ça ne veut pas dire que je hais la droite. Ça ne veut pas dire que certains à droite. Quand nous avons fait cette première expédition, j'ai parlé du Rwanda. Rwanda, génocide. J'ai marché sur les cadavres d'enfants. Bon. Nous avons fait une opération du Parlement européen, plus largement, avec la gauche et la droite. La gauche et la droite avaient même le président du Parlement était un Anglais conservateur qui était avec nous dans cette expédition. L'immense majorité des choses de la morale ou de la des choses positives peuvent être faites par la gauche et la droite. La preuve. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées de gauche.
Mais qu'est-ce que c'est qu'être de gauche alors pour vous ?
C'est, être de gauche, c'est avoir sur l'égalité, sur la paix, tout le contexte social en particulier, des idées un peu plus avancées que la droite. C'est tout. C'est d'être généreux, c'est de refuser les massacres, c'est etc. Or, figurez-vous, j'ai fait un livre sur la toxicomanie et les toxiques qui va paraître dans quelques temps avec des amis. Je me suis aperçu, oh honte, que les réformes sur ce qui est notre échec absolu, n'est-ce pas, l'échec absolu de la lutte contre la toxicomanie en France, nous allons encore une fois être les derniers à changer. L'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, tout change, nous pas encore. Donc on va avoir du mal à faire passer ces idées-là. Est-ce que c'est gauche ou droite ? Eh bien, je me suis aperçu que dans les gouvernements de gauche auxquels j'ai appartenu, il n'y avait pas eu de réforme réelle. Il y avait eu un conservatisme et une crispation terrible sur ces problèmes. Et toutes les réformes ont été faites, y compris la première par Michel Barzac, de vendre des seringues, d'avoir des seringues propres dans les pharmacies. Tout ça, ça a été fait par la droite. Expliquez-moi. Je dis générosité, mais c'est même pas vrai. Ça veut pas dire que je suis de droite. Ça veut dire que la gauche ne remplit pas son boulot.
On évoque plusieurs de vos combats, Bernard Kouchner, que ce soit les combats à l'intérieur avec la lutte contre la toxicomanie et la meilleure façon de la mener. Et puis, vous évoquiez le mot de génocide avec votre présence au Rwanda en 1994, vous pouvez vous targuer aujourd'hui d'avoir empêché peut-être un génocide qui était celui que Saddam Hussein voulait mener contre les Kurdes. On est en 1991, oui. On est après la première guerre du Golfe et Saddam
opération Anfal
régler leurs comptes au peuple kurde.
Oui. 6000 villages ont été détruits. Bombardement chimique à l'Abja, où je suis allé plusieurs fois, dont une fois avec Daniel Mitterrand. Et là, il y a eu un attentat contre nous. Hélas, pour ceux qui sont morts, ni Daniel ni moi, non. Nous avons été blessés, mais enfin, il y a eu 18 morts. Oui, j'ai essayé. Et finalement, c'est une des raisons pour lesquelles, sans approuver la démarche américaine, je voulais que l'ONU participe de cette démarche. Moi, je sortais du Kosovo et contre l'Irak, il fallait empêcher de nuire Saddam Hussein. Oui, j'en étais partisan. L'opération Anfal a fait, apparemment, c'est très difficile, il y a toujours, compter les morts, enfin des centaines de milliers de morts kurdes.
Et comment est-ce qu'on empêche un génocide ?
On a fait cette opération que moi, je voulais faire avec l'ONU. Parce que c'est un article que j'ai écrit d'ailleurs, on m'a reproché d'être pour les Américains, j'ai jamais dit dans la rue, j'ai dit qu'il fallait que, comme je l'avais fait, comme nous l'avions fait tous, et comme l'ONU l'avait organisé, comme au Kosovo, que ce soit la communauté internationale qui empêche le massacre de Saddam Hussein. Ça a été les Américains, la France n'a pas participé, et une coalition. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais enfin, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu une intervention militaire. Sinon, il ne serait jamais arrêté, Saddam. C'est comme ça, à un moment donné, il faut se battre. Si vous voulez empêcher les massacres, et que ces massacres sont décidés, qu'ils sont même enclenchés, c'est déjà trop tard. Il faut Ça serait bien qu'il y ait une armée des Nations Unies, vous comprenez ? Mais il faut pour ça qu'il y ait une entente préalable. Et l'entente avec ces réformes des Nations Unies qui ne sont jamais abouties, c'est pas possible. Le Conseil de sécurité est divisé pour le moment et donc il n'y a pas... N'oubliez pas que le Conseil de sécurité avait accepté cette opération en Libye, pas contre Kadhafi, mais contre le fait qu'il allait bombarder la deuxième ville du pays, Benghazi, et qu'il fallait l'en empêcher. Ce que nous avons fait, les Anglais, les Français, mais il fallait pas partir. Et maintenant, nous avons dépassé, en fait, ce que qu'autorisait la résolution des Nations Unies. Et bon, ça nous a été reproché. Maintenant, il y a ce blocage. Moi, j'étais plus ministre des Affaires étrangères, donc j'en suis pas responsable, mais... À un moment donné, il faut se battre pour défendre la liberté.
Vous dites faut se battre. On a l'idée que vous n'avez cessé de vous battre sur toutes sortes de fronts. Bernard Kouchner, est-ce que finalement, vous y croyez à la paix ?
J'y crois parfois, je vous l'avoue, à m'en pas croire mes oreilles. J'y crois pas beaucoup. Je crois que la guerre, c'est un sport horrible, autour duquel s'articulent énormément de pensées, d'attitudes, de souvenirs, d'écrits. Je souhaiterais que la guerre à la guerre, comme l'a dit Régis Debray pour moi, soit par prévention efficace. Mais j'y crois pas beaucoup. J'ai vu tellement de guerres, tellement de massacres faits par des gens dont je n'aurais jamais soupçonné qu'ils puissent être autant meurtriers. Bon, je veux bien, oui, donc, d'accord, profondément, je sais que c'est pas beau, mais la guerre structure l'histoire d'une façon horrible. Je pense que ça sera plus seulement le football, on n'ira plus. On essaiera d'empêcher, peut-être que dans un siècle ou deux, le développement des choses, puis enfin les guerres sont maintenant presque automatiques, si j'ose dire, enfin, connectées, etc. Le dernier incident, c'est il y a 3 jours, un drone iranien envoyé sur Israël, bon, ils l'ont abattu, mais les Syriens, du coup, sans doute les Iraniens, ont abattu un... Oui, ce seront des combattants qui n'auront plus rien d'humain. Ce sera quand même la guerre. Enfin, écoutez, vous voulez que je vous dise que je crois à la paix ? Oui. Est-ce que j'y crois profondément ? Non.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Bernard Kouchner. À voix nue. Réalisation Doria Zénine. Prise de son Fabien Gosset. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.